France Info.
Bonjour Frédéric Pechenard.
Bonjour.
Des dizaines de manifestants qui scandent « Suicidez-vous » à des policiers avant-hier à Paris. Quelle a été votre réaction ?
Une incompréhension, une tristesse, un agacement, un énervement profond. C'est incompréhensible. Voilà, c'est incompréhensible. C'est honteux, c'est scandaleux. Je vous dis, j'ai pas de mots. Ça me dépasse. C'est-à-dire que je comprends que les gens veuillent manifester. Je comprends que parfois on puisse être confrontés aux forces de l'ordre qui, rappelons-le quand même, sont juste là pour faire en sorte que les choses se passent bien. Alors les insultes, les provocations à ce point-là, c'est scandaleux. D'ailleurs, on peut vraiment se poser la question de savoir si tout ça n'est pas quelque chose de délibéré. On voit bien qu'il y a une espèce de radicalisation d'un certain nombre de personnes dans ce mouvement des Gilets jaunes, ce que les services de renseignement appellent les ultra-jaunes et les black blocs. On voit bien que là, ils cherchent l'affrontement, ils cherchent la difficulté, ils cherchent
l'irréparable. Ils cherchent le dérapage.
Ils cherchent le dérapage de la police aussi. Et franchement, il faut rendre hommage aux forces de l'ordre qui, semaine après semaine, malgré l'épuisement, malgré les provocations, réussissent à contenir. On a vu tous ce qui se passe à la télévision, en dehors des suicidez-vous, qui est absolument scandaleux, surtout quand on connaît la réalité de la police aujourd'hui. Ces gens qui arrivent au contact des policiers, qui les insultent pendant de très longues minutes sous les caméras bienveillantes de la télévision, et les policiers qui restent impassibles, franchement, ils font leur métier, mais ils le font bien, chapeau.
Alors, il y a l'un des animateurs du mouvement des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, qui a clairement condamné ces propos, qui ne reflètent pas le mouvement des Gilets jaunes, selon lui. Mais il explique ces propos, ces appels au suicide, par un certain climat qui règne, selon Jérôme Rodriguez, depuis plusieurs semaines.
Ça fait 4 mois qu'on en prend plein la tronche, ça fait 4 mois qu'on se fait insulter, ça fait 4 mois qu'on nous éborgne, qu'on nous mutile, qu'on se fait frapper, qu'on est victime d'arrestations arbitraires. Et comme tout être humain, et je suis pas psychologue pour un sou, quand un être humain en prend une dans la tronche, deux, trois, à un moment donné il finit par se rebiffer et il en distribue lui aussi.
Qu'est-ce que vous pensez de cet argumentaire, Frédéric Pechenard ?
Je pense que c'est une inversion totale de ce qui se passe dans la réalité, une inversion totale des valeurs. C'est-à-dire que ça fait effectivement 4 mois que les Gilets jaunes manifestent, ce qui en soi ne pose aucun problème. On est dans une démocratie, on a le droit de manifester. Sauf que moi, ce que je vois depuis 4 mois, depuis 23 semaines, c'est pas des manifestants, ce sont des émeutiers. C'est-à-dire que ce sont des gens qui prennent possession de la rue, alors notamment à Paris. Moi, je suis élu parisien, j'habite Paris, donc je suis ce qui se passe à Paris, si vous voulez. Et il y a des agressions sur les policiers, près de 2000 policiers ont été blessés, 19 policiers encore blessés la semaine dernière, les voitures sont brûlées,
quand vous dites
les magasins sont pillés.
Quand vous dites des émeutiers, Frédéric Pechenard, vous parlez de tous les manifestants ou
Non. Alors, je ne parle pas de tous les manifestants, il faut bien mettre les choses de côté, il y a des gens qui viennent manifester. Mmh. Manifester, ça veut dire qu'on déclare la préfecture, on dit voilà, je ne suis pas content contre le président de la République, je vais manifester. Je vais d'un point A à un point B et je manifeste. Et là, les forces de l'ordre sont autour pour protéger la manifestation, pour éviter qu'il y ait des débordements, etc. Mais là, vous avez un certain nombre de personnes, alors c'est vrai des black blocs, c'est vrai des ultra-jaunes, etc., qui viennent pas pour manifester. Et ça, c'est pas depuis ce samedi, c'est depuis le deuxième samedi, qui viennent pour casser, pour piller. C'est-à-dire que dans le 17e arrondissement, on a été largement touché. Bon, par exemple, la rue de Courcelles ou la rue de Progny ont été détruites, dévastées. Les gens qui mettent le feu aux voitures, les gens qui cassent des vitrines, des gens qui pillent les magasins, des gens qui attaquent les forces de l'ordre spontanément par le plaisir, eh bien, ce sont des émeutiers, ce sont des délinquants et ils doivent donc être traités comme tels.
Vous pensez qu'on va retrouver, identifier les personnes qu'on a vues sur cette vidéo ? On en a les moyens ?
Oui, bien sûr, la police française est bien faite, on les retrouvera. Alors après, comme on retrouve d'ailleurs une partie des casseurs et une partie des pilleurs, on le fait dans le temps, on le fait avec le rythme judiciaire de l'enquête, mais oui, on va les retrouver, bien sûr. Les services de renseignement et les services de police judiciaire sont là pour ça. Pose le problème, il y a quelque chose qu'il faut quand même mettre sur la table. Il y a eu 9000 personnes à peu près qui ont été arrêtées depuis le début des événements. Quand je dis arrêtées, ça veut dire placées en garde à vue. Je ne parle pas des contrôles, je ne parle pas des contrôles d'identité, je ne parle pas des fouilles, des gens placés en garde à vue. Quand vous êtes placé en garde à vue, c'est que la police vous soupçonne d'avoir commis un délit ou un crime. Donc vous voyez, il y a 9000 personnes qui ont été interpellées par la police, gardées, entendues, parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir commis un délit ou un crime. Sur ces 9000 personnes, la quasi-totalité sont dehors aujourd'hui. 5% seulement sont sur mandat de dépôt. Donc qu'il y ait, au début, une certaine mansuétude, on le comprend, au bout de 23 semaines, avec des scènes qui se répètent constamment, c'est insupportable. Prenons encore mon arrondissement.
Il y a deux explications à ça, Frédéric Pechenard. Soit une forme, pour reprendre votre propos, de mansuétude de la justice, soit une absence de preuves.
Alors, il y a aussi une troisième solution, parce que l'absence de preuves, c'est normal que je n'en sois pas condamné. La mansuétude de la justice, ça ne me regarde pas, ça ne regarde personne, puisque les magistrats sont indépendants. Moi, je pense que c'est plutôt une question d'instruction donnée. C'est-à-dire que le garde des Sceaux doit donner des instructions extrêmement fermes au parquet pour systématiquement poursuivre et systématiquement requérir des peines importantes. Regardez, par exemple...
Il y a une dernière hypothèse, Frédéric Pechnard, c'est aussi que la police, finalement, interpelle trop et met trop de gens en garde à vue.
Non, je ne crois pas.
Et pas les bons.
Franchement, oui, bien sûr, c'est ce qu'on dit toujours. J'en sais rien, hein, j'y suis pas, c'est pas moi qui fais les procédures, c'est pas moi qui interpelle.
9000 gardes à vue, 5% seulement à l'arrivée.
Oui, ben c'est pas beaucoup.
Et c'est de la faute de la justice. Des instructions.
Je dis pas que c'est de la faute. Vous savez, moi j'aime pas beaucoup dire, c'est facile de dire c'est la faute de l'autre en permanence. Mmh. Je fais pas partie des policiers qui disaient les policiers arrêtent, les magistrats relâchent. C'est pas du tout ça. Les policiers arrêtent, les magistrats condamnent et après les peines ne sont pas exécutées ou mal exécutées. Je vous prends un exemple. Le boxeur qui a frappé, notamment frappé un gendarme au sol, il est condamné à 1 an de prison ferme. Voilà une condamnation qui paraît mesurée, qui paraît normale. Après tout, vous avez frappé 2 policiers, ça mérite pas perpétuité, mais ça mérite pas non plus une contravention. Eh bien, le problème, c'est l'exécution de cette peine, puisqu'il va faire cette peine en semi-liberté. Ça veut dire qu'il va être dehors la journée. Ça signifie que, potentiellement, j'imagine qu'il ne l'a pas fait, mais potentiellement, il pourrait être à une manifestation des Gilets jaunes et recommencer des actes de violence.
Ah, ça s'appelle les aménagements de peine, vous connaissez ça pour avoir dirigé la police pendant quelques années.
Je n'y suis pas favorable à ce point-là.
Uniquement pour les Gilets jaunes ?
Pour tout, évidemment, pas que pour les Gilets jaunes. On a un vrai sujet en France qui est l'exécution de la peine. Et d'ailleurs, Mme Belloubet...
Et on a un autre sujet, vous savez, qui est la récidive, et on sait que la prison est plutôt un facteur de récidive.
Pas du tout, absolument pas. Mme Belloubet l'a dit, les peines inférieures à 6 mois de prison ne seront plus exécutés, c'est un petit peu l'idée. Une peine courte n'est pas une bonne peine. Le ministre de l'Intérieur a dit que la prison pouvait être criminogène. Bon, attendez.
Et puis il y a un autre sujet qui est la surpopulation carcérale.
Alors,
aussi,
c'est le seul vrai sujet, c'est la surpopulation carcérale. Nous n'avons pas assez de places de prison en France. Voilà. Concrètement, nous avons 60 000 places de prison. Il faut savoir, par exemple, que nos amis anglais en ont 96 000. Nos amis espagnols, qui sont pourtant moins nombreux que nous, en ont 77 000. Une démocratie comme la France devrait avoir 80 000 places de prison, parce qu'on ne peut pas faire de politique pénale en fonction des places de prison. On fait une politique pénale en fonction des condamnations prononcées par les tribunaux. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe ? Les tribunaux prononcent des condamnations qui ne sont pas appliquées. C'est ça qui est scandaleux.
Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale, candidat sur la liste des Républicains aux élections européennes. Vous figurez en 9e position et vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. C'est avec nous jusqu'à 9h. Il est 8h40. On s'interrompt quelques instants pour le rappel de l'actualité. Stéphane Milhomme.
Et le dernier bilan au Sri Lanka est de 290 morts, près de 500 blessés, près de 13 suspects ont été interpellés ces dernières heures après ces 8 attaques hier, un dimanche de Pâques, dans des églises et des hôtels. Les forces de l'ordre annoncent également avoir désactivé la nuit dernière une bombe artisanale près de l'aéroport de Colombo. Nissan annonce ce matin le dépôt d'une plainte au pénal contre son ancien président Carlos Ghosn pour abus de confiance aggravé. C'est aujourd'hui que le tribunal de Tokyo dira si l'ancien patron de Renault Nissan restera en prison. Il est toujours interrogé pour de nouveaux soupçons de malversation financière. Volodymyr Zelensky, profession, comédien et humoriste, en tout cas jusqu'à présent, car il est depuis hier soir le nouveau président de l'Ukraine, élu avec 73% des suffrages face au président sortant Petro Porochenko et ses 25%. La Bretagne est en alerte rouge toute cette journée face à la pollution de l'air aux particules fines. La vitesse est réduite de 20 km/h sur les axes autoroutiers du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine. Vitesse réduite également pour le département du Nord et le Pas-de-Calais face aux particules fines, mais aussi devant une pollution à l'ozone.
France Info. Toujours avec Frédéric Pechnard et Renaud Dely.
28 policiers se sont donné la mort depuis le début de l'année. La police, elle est mise en première ligne depuis maintenant plus de 5 mois avec ce mouvement des Gilets jaunes. Dans quel état, à vos yeux, est aujourd'hui la police nationale, Frédéric Pechnard ? Est-ce qu'elle est au bord de craquer ?
Alors, au bord de craquer, j'espère bien sûr que non. Elle est dans une situation délicate et ce depuis plusieurs années. On peut considérer que ça n'a jamais été facile d'être policier. Les policiers ont toujours été en première ligne, c'est normal. Hein, c'est le dernier rempart, l'ultime rempart de la démocratie et de la République. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut faire attention à notre police, parce que c'est le dernier rempart de la démocratie. Hein, voilà. Donc ça, c'est très important de faire attention à notre police.
Aujourd'hui, le gouvernement fait assez attention à la police.
Juste une petite précision, c'est que à chaque fois qu'il y a une enquête d'opinion sur la police, eh bien celle-ci est extrêmement favorable. La dernière enquête d'opinion, c'est, je crois, l'IFOP en janvier 2019. 75% des Français apprécient leur police et ont confiance dans leur police. Voilà. Donc il faut que les policiers qui m'entendent ce matin, ils le savent, mais sachent que l'immense majorité des Français sont derrière eux. Voilà, ça c'est la première chose. La seconde, c'est qu'on a un nombre de suicides tout à fait anormal cette année, naturellement. Hein. Ça va être pratiquement, si on continue sur cette lancée, ça sera deux fois plus que d'habitude, entre guillemets, parce qu'il y a toujours eu quand même un certain nombre de suicides dans la police. Mais cette vague de suicides, elle a augmenté depuis déjà 2015. C'est-à-dire qu'on voit que il y a eu les attentats avec une pression très forte sur le travail de la police. Il y a maintenant les gilets jaunes depuis 23 semaines avec une pression très forte sur la police. Et comme toujours dans les affaires de suicide, c'est des sujets que j'ai suivis très près quand j'étais directeur général de la police. Vous avez des causes, vous avez multifactorielles. C'est-à-dire que c'est rare que quelqu'un se suicide pour une seule cause. Mmh. C'est souvent plusieurs difficultés réunies. Mais une fois que j'ai dit ça, peut-être aussi que les problèmes professionnels que vous avez peuvent se ressentir sur votre couple et vice-versa. Concrètement, il y a quand même des policiers qui ont fait 23 week-ends d'affilée à Paris. Ça veut dire qu'ils ne sont pas chez eux. Ça veut dire qu'ils rentrent le soir épuisés, parfois couverts d'excréments, blessés. Donc tout ça crée des difficultés aussi dans le couple.
Est-ce qu'on est capable de continuer à assurer la sécurité des manifestants dans les semaines qui viennent? Il y a une nouvelle mobilisation prévenue samedi prochain. Il y a le 1er mai qui arrive également avec des manifestations syndicales, mais également des Black Blocs, l'ultra-gauche, qui ont prévu de se retrouver. Est-ce que vous dites, attention, warning, les manifestations du 1er mai cette année ne pourront pas se dérouler comme prévu?
Alors, les manifestations du 1er mai, je pense qu'il faudra qu'elles se déroulent comme prévu. Le 1er mai, c'est quelque chose qui est très symbolique, très important. Il n'est pas question de renier sur les libertés syndicales du 1er mai. C'est un rendez-vous qui est absolument incontournable. Par contre, je pense qu'il faut faire en sorte, au maximum, d'économiser les forces. Vous savez, c'est pas tellement nouveau. Hein. J'étais opposé à la création de la fan zone pour l'Euro 2016 à Paris. À partir de 2015, les forces de l'ordre ont été très, très sollicitées. Bon, on était d'ailleurs en état d'urgence et il y avait une fan zone qui était sous la Tour Eiffel. Et évidemment, pour sécuriser la fan zone, il a fallu mettre énormément de forces mobiles autour. Forces mobiles avec lesquelles je parlais, je discutais, j'étais les rencontrer. Et il y a des CRS qui me disaient, nous on a fini à 4h du matin en banlieue parisienne, et à 9h, on est là ce matin.
Alors sur quoi on peut faire des économies de poste aujourd'hui?
Concrètement, moi j'avais demandé à l'époque, ça avait été refusé par Madame Hidalgo, mais j'avais demandé à l'époque que la fan zone ne soit pas à cet endroit-là, mais soit au stade Charletti, parce qu'un stade c'est fermé, c'est beaucoup plus facile à contrôler, et au lieu de mettre 9 compagnies de CRS, on n'aurait pu en mettre qu'une seule. Bon, je crois qu'il y a des choix à faire qui demandent un petit peu de courage.
Parce que là, on ne va pas faire manifester les gens le 1er mai dans un stade.
Bien sûr que non. Mais par exemple, ce week-end-là, le dernier week-end, il y a eu sur l'ensemble de la France 30 000 manifestants. Il y a eu 60 000 policiers. Alors, je sais bien que quand on est ministre de l'Intérieur, et que la situation est aussi difficile, c'est pas simple de faire des choix, mais faisons bien attention de pas avoir ceinture et bretelles et utiliser les forces de l'ordre à bon escient. Franchement, 60 000 policiers pour 30 000 manifestants, même si sur ces 30 000 manifestants, il y avait beaucoup d'émeutiers qui venaient en découdre, peut-être ça
pouvait être beaucoup. Il y avait trop de policiers ce week-end en France mobilisés.
Alors, je crois
C'est ce que vous dites.
Non, j'ai pas dit ça. Je dis pas
qu'il y a 30 000 manifestants, 60 000, il faut s'interroger sur l'adéquation. Alors, soit on met plus de manifestants, soit on met moins de policiers.
Non, ce que j'ai mal compris. Non, vous avez très bien compris, mais je ne veux pas caricaturer ma position. Je ne peux pas dire, il y avait trop de policiers ou pas assez de policiers. Je crois que d'une façon générale, il faut essayer d'équilibrer les missions. Vous savez, il faut prioriser les missions. Et s'il devait y avoir, après tout, c'est pas à moi d'en décider, c'est au préfet de police, au ministre de l'Intérieur, s'ils ont des informations que je n'ai pas, qu'il devait y avoir 60 000 policiers, ça signifie qu'il faut... Il faut probablement faire en sorte que d'autres missions soient moins prioritaires.
Il y a eu un changement de stratégie aussi ce week-end, Frédéric Pechenard, parce que vous dites qu'il y a eu 60 000 policiers. Finalement, il y a eu plutôt moins de dégâts et moins de violences que ce qui était redouté au préalable quelques jours avant. Il y a eu plus de 20 000 contrôles d'identité préventifs. C'est ça la solution? Il faut contrôler tout le monde avant?
Alors la solution, vous savez, vous m'aviez invité il y a quelques semaines sur ce plateau et j'avais dit modestement ce que je pense qu'il fallait faire. Alors je vois que c'est ce qui a été suivi finalement, qu'il fallait, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il fallait interdire certaines manifestations. voilà, celles qui, dont on pensait qu'elles allaient dégénérer, donc des rassemblements interdits, parce que quand ils sont interdits, ça permet justement de faire des contrôles d'identité. Ça a été fait. Et je pensais aussi qu'il fallait arrêter d'avoir une vision statique des choses. La vision statique de la police, c'est-à-dire que c'est pour les manifestations classiques, la police n'a pas besoin d'interpeller dans les manifestations classiques, n'a pas besoin de bouger. Mais là, quand vous avez affaire à des gens qui sont, je le répète une fois de plus, non pas des manifestants, mais des émeutiers, il faut que la police soit dynamique. C'est à peu près ce qu'on a vu ce week-end, et c'est tant mieux.
Frédéric Pechnard, on est presque une semaine après l'incendie à Notre-Dame. On sait qu'Emmanuel Macron a repoussé l'intervention, l'allocution qu'il devait faire face aux Français en début de semaine dernière. Sa conférence de presse, ce sera jeudi. Est-ce que vous trouvez que dans cette affaire, il a adopté le bon ton depuis l'incendie?
Vous savez, d'abord, vous pouvez pas reprocher à un homme politique de faire de la politique. Bon, donc évidemment,
il a fait de la politique.
Bien sûr, comme font
les hommes politiques. Au bon sens ou au mauvais sens du terme.
Au bon sens du terme. Alors évidemment, il espère en avoir un bénéfice personnel politique, ce que je comprends. Bon, après, sur le fond, il était là au moment où ça s'est passé. Il a dit des choses qui me paraissaient convenables. Et puis, il faut qu'on reconstruise cette cathédrale. Voilà.
Le député Les Républicains Éric Ciotti lui dénonce une récupération politicienne indigne de la part d'Emmanuel Macron.
C'est ce que je dis, mais de façon différente.
Ah, vous dénoncez aussi une récupération de cette catastrophe par le président de la République.
Oui, mais
il fait de la politique, comme vous l'avez dit, et dire c'est une récupération politique indécente.
C'est de la politique. Pour moi, c'est de la politique.
Il y a un petit degré dans la nuance.
Et c'est normal de faire de la politique quand vous êtes président de la République.
Alors, voici ce que dit maintenant votre tête de liste aux Européennes, François-Xavier Bellamy.
Je regrette que le président de la République, dans son allocution depuis l'Élysée, comme Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes, hier à Paris, n'ait pas eu un mot pour parler aux chrétiens, aux catholiques, au cœur de ce moment si singulier pour eux.
Emmanuel Macron aurait dû s'adresser plus particulièrement aux catholiques.
Oui, en l'occurrence, oui. Parce que Notre-Dame, c'est le symbole de Paris, c'est le symbole du tourisme aussi. Vous savez que c'est le monument qui est le plus visité en France et même peut-être même en Europe. Il n'en demeure pas moins que c'est une cathédrale et que c'est une cathédrale catholique. On voit bien d'ailleurs que la communauté catholique est particulièrement frappée par ça et puis par d'autres choses. Les attentats au Sri Lanka, par exemple, montrent que dans certains pays du monde, la communauté catholique minoritaire est quand même une cible toujours importante, voire prioritaire. Donc je crois que c'est une communauté qu'il faut soutenir et qu'il faut faire un petit peu attention. Et c'est vrai qu'un mot de compassion spécifique n'aurait pas été malvenu.
C'est ce qu'a fait le président de la République le premier soir, au soir de l'incendie. Il aurait dû le renouveler.
Oui.
Aujourd'hui, vous considérez, vous évoquiez les attentats au Sri Lanka, que la communauté catholique et les chrétiens en général sont particulièrement ciblés?
Ah bien sûr. Bien sûr, ben on l'a vu partout dans les pays du Moyen-Orient, avec des communautés qui ont de plus en plus de mal à affirmer leur identité et qui sont soumis à des persécutions permanentes, mais même en France. Je rappelle qu'un des terroristes qui a été arrêté préventivement après avoir abattu une femme avait comme projet d'attaquer l'église de Villejuif.
Il est 9h10 sur France Info. Frédéric Pechnard, vous restez avec nous. On s'interrompt pour le rappel de l'actualité avec Stéphane Milan. Mais on se retrouve juste après.
Le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris prête à déposer plainte. Une semaine après le violent incendie, Monseigneur Patrick Chauvet le déclare sur France Info. Il entend saisir la justice pour destruction involontaire. Savoir ce qui s'est passé face au matériel abîmé dans la cathédrale. Il conviendrait plutôt de supprimer la cinquième semaine de congés payés pour financer la dépendance. C'est la phrase choc du directeur de l'association ADPA. Elle regroupe des directeurs d'EHPAD et de services d'aide à domicile. Romain Guilzaume réagit sur France Info ce matin à la proposition d'Aurore Berger. La députée La République En Marche propose d'instaurer une deuxième journée de solidarité. Mais pour ce professionnel, la mesure serait financièrement insuffisante. Des rafales attendues à 110 voire 130 km/h. La Corse du Sud reste placée toute cette journée en vigilance orange face au vent violent. Ce vent d'est soufflera fort jusqu'à cet après-midi en Haute-Corse et dans une moindre mesure sur le département du Var. Avec un triplé signé Mbappé, le retour de Neymar après 3 mois de blessure, le PSG est sacré champion de France. Après sa victoire hier soir 3-1 face à Monaco sur la pelouse du Parc des Princes, c'est le 8e titre de son histoire.
Info. Toujours avec Frédéric Pechnard. Est-ce qu'à votre connaissance, Monsieur Pechnard, votre parti, Les Républicains, a participé au don pour la cathédrale Notre-Dame de Paris?
Alors, à l'heure où je vous parle, je n'en sais absolument rien.
Voilà. Est-ce qu'il faut le faire?
Est-ce bien sûr, il faut le faire. Ouais. Oui, il faut le faire. Enfin, pas au
on n'a pas vu de déclaration de Laurent Wauquiez en ce sens
pour l'instant.
Pas au niveau du parti.
C'est un choix qui doit être un choix individuel, que moi je vais faire, par exemple. Voilà. Mais c'est un choix individuel. Je ne pense pas que le parti a donné...
Il ne doit pas donner l'exemple?
Oh, je crois pas, non. Enfin, je sais pas ce que va faire le parti là-dessus. Ni l'un ni l'autre ne me choque, si vous voulez. Après tout, si le parti voulait apporter une contribution, pourquoi pas. Mais ça ne me paraît pas être, par essence, le rôle d'un parti politique.
Emmanuel Macron a donc repoussé son allocution. On sait qu'il s'exprimera jeudi à l'occasion d'une conférence de presse. C'est là qu'il développera ses propositions de sortie du grand débat. Il y a une piste qui est avancée par le gouvernement et par l'Élysée, qui est celle d'inciter les Français à travailler davantage pour financer les baisses d'impôts. Est-ce que vous validez ce jugement? Et ensuite, quelles mesures? Il y a trois possibilités, soit remettre en cause les 35 heures, soit repousser l'âge légal du départ en retraite, soit une deuxième journée de solidarité à l'instar du lundi de Pentecôte, Frédéric Pechnard.
D'abord, je pense que c'est jamais une bonne idée de parler des choses avant qu'elles arrivent. C'est-à-dire, pour dire les choses clairement, j'attendrai, moi, jeudi soir, que le président Macron se soit exprimé pour avoir une idée. Alors, bon, il y a des fuites, visiblement, dans ce qui devait être dit. Moi, ça me convient pas, si vous voulez, de parler sur des choses qui sont pas acté. Voilà. Donc, mais si vous voulez.
Les Républicains réclament eux aussi.
Si vous voulez, je répondrai à ces questions.
Frédéric Pechnard.
Alors, on va poser la question différemment.
Faut-il travailler plus?
Vous me réinviterez et je vous en parlerai. Alors, par contre, je vais vous parler des retraites. Parce que finalement, c'est une des pistes. Moi, je crois que ce qui est extrêmement important dans notre pays, c'est de maintenir les retraites. C'est-à-dire que les retraités gardent leur pouvoir d'achat. Voilà. Quand vous êtes à la retraite, quand vous êtes âgé, quand vous pouvez plus travailler, parce que vous êtes âgé, parce que vous êtes fatigué par la vie, parce que vous êtes malade, eh bien, vous devez avoir, on peut pas s'attaquer à ces gens-là. Voilà. Vous devez avoir une certitude. Et d'ailleurs, ce qui est un petit peu inquiétant, je trouve, en ce moment, et qui participe d'ailleurs de l'inquiétude générale, c'est l'ambiance anxiogène. Quand vous lancez en l'air 15 propositions de réforme en permanence, eh bien les gens sont inquiets. On parlait des difficultés dans la police tout à l'heure avec les suicides. Il y a une intersyndicale sur les suicides, il y en a une autre sur les retraites. Les policiers sont inquiets parce qu'ils ont un régime de retraite depuis toujours et ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Bon, moi, ce qui me paraît absolument essentiel, c'est d'aller dans la prolongation de ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. La seule réforme des retraites sérieuse qui a été faite, c'est celle de 2010, où on est passé de 60 à 62 ans. Bien, ça ne suffit à l'évidence pas. On voit bien que tous nos voisins européens, c'est vrai des Allemands, c'est vrai des Anglais, c'est vrai des Italiens, c'est vrai des Espagnols, partent entre 65 et 66 ans. C'est évidemment la piste qu'il faut suivre, parce que c'est la piste qui permettra de maintenir les retraites. Il est tout à fait anormal que des gens qui ont 90 ans aujourd'hui voient leur retraite baisser. Voilà. Donc il faut impérativement confirmer les retraites, que les retraités, que nos anciens, que nos aînés soient absolument certains de conserver leur pouvoir d'achat. Et puis s'il faut que les actifs travaillent un peu plus. Moi j'ai 62 ans, je ne me vois pas en train de prendre ma retraite. Je ne suis pas malade. Quelqu'un qui est malade, qui a un métier particulièrement dur. J'ai été policier pendant 30 ans. Je pense que je peux continuer à travailler. Par contre, nos aînés, ils doivent pouvoir bénéficier des retraites. Voilà. Donc oui, une des pistes,
oui, c'est, pour
sans, aucun doute d'allonger
jusqu'à 65 ou 67 ans.
Et plus en tout cas que cette espèce de réforme qu'on nous promet des retraites et qui finalement depuis 2 ans tourne en rond et tourne en boucle et inquiète tout le monde. Voilà. La réforme qui est préparée par Monsieur Delevoye, elle est anxiogène parce qu'en fait, on ne sait pas à quoi elle va aboutir et ça fait partie, notamment ça, du malaise des policiers.
Une deuxième journée de solidarité travaillée, ça aussi c'est anxiogène ou pas?
C'est pas anxiogène, mais on le disait dans votre reportage, ça suffira évidemment pas. Donc essayons de prendre des mesures, que ce soient des mesures courageuses, des mesures sérieuses et qui vont suffire. Voilà. Il est très important d'avoir un régime de retraite qui soit pérenne, c'est une évidence. Voilà. Chacun qui a passé sa vie à travailler doit avoir droit dans notre pays à une retraite. Il faut faire en sorte que ce soit pérenne. Eh ben, on sait très bien, hein, il faut poursuivre progressivement, bien sûr, il faut faire les choses de manière progressive, la réforme de Nicolas Sarkozy de 2010.
Et sur la troisième piste qu'envisageait et qu'en rappelait Renaud Dely il y a quelques instants, est-ce qu'il y a encore des voix dans votre parti chez les Républicains pour dire il faut revenir sur les 35 heures? Ou est-ce que c'est un débat du passé?
Alors c'est un débat qui est un débat intéressant, avec une difficulté, c'est que moi je suis très favorable aux heures supplémentaires défiscalisées. Mmh. C'est quelque chose qui a fonctionné, qui fonctionne bien. Mais évidemment, pour qu'il y ait heures supplémentaires, il faut qu'il y ait une limite de travail. Donc moi, les 35 heures, avec la possibilité de faire des heures supplémentaires défiscalisées, ça, c'est travailler plus pour gagner plus, et c'est quelque chose que je crois que les gens peuvent comprendre et peuvent espérer. Moi, je pense que c'est très important de pouvoir avoir le paiement des heures supplémentaires. Revenons, si vous voulez bien, une seconde à la police. Un des problèmes de la police, c'est que les heures supplémentaires ne sont pas payées. policiers, à part les CRS. C'est-à-dire que tous les policiers qui sont sur le terrain, eh bien, ils ont des, quand ils viennent travailler un samedi, ils ont des jours de vacances. Ce qui fait que les policiers ont en moyenne, je sais pas, 300-400 jours de vacances qu'ils ne peuvent jamais prendre. Eh bien, déjà, si on payait les heures supplémentaires et qu'elles soient pas fiscalisées, je pense que psychologiquement, ça changerait un peu les
Renaud
choses.
Frédéric Pechner, les élections européennes, c'est dans à peine un mois, c'est le 26 mai. Vous êtes candidat sur la liste conduite par François-Xavier Bellamy. Le principal enjeu en France de ces élections, c'est quoi? C'est un duel entre les Républicains et le Rassemblement National?
Non, le principal enjeu, c'est
entre, l'Europe. Pardon, entre la République en marche et le Rassemblement National.
Le principal enjeu, c'est l'Europe. Voilà, c'est, évidemment, les gens qui viennent voter, ils voient pas forcément les choses comme ça, mais c'est l'Europe. Concrètement, quelle Europe on veut? Moi, je veux une Europe qui protège la France. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est tout
comme
ce...
comme la République en marche, c'est le discours d'Emmanuel Macron.
Une Europe qui protège. Avec quand même une grande différence. Je suis opposé à l'élargissement. Je suis opposé à l'entrée d'autres pays dans l'espace Schengen, parce que l'espace Schengen fait partie des choses qui ne fonctionnent pas. Et puis, dans le programme que j'ai lu, l'idée, c'est quand même d'avoir encore plus de technocratie. Par exemple, la création d'une agence de protection des démocraties qui permettrait de lutter contre les cyberattaques, etc. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour Madame Loiseau. Cette agence, elle existe. Ça s'appelle Europol. C'est l'agence de police européenne qui a été créée en 1995, dont une des spécialités est la cybersécurité. Donc, il ne faut pas créer des nouvelles choses. Il faut renforcer ce qui existe déjà. J'en profite d'ailleurs, puisqu'on parle de sécurité.
Très rapidement, si vous voulez bien.
Très rapidement, pour dire que l'Europe nous a apporté énormément de sécurité. C'est vrai avec le mandataire européen, c'est vrai avec Europol, c'est vrai avec les équipes communes d'enquête, et que le Rassemblement National a voté systématiquement contre tout ça. C'est d'ailleurs assez curieux d'imaginer que vous êtes contre l'immigration irrégulière et que vous votez contre la création d'un corps de garde-frontières, parce que si on veut faire en sorte que nos frontières soient moins étanches, il faut des garde-frontières
pour les tenir. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Frédéric Pechner.
Merci.